Je me sens en forme, le soleil brille et dans mes yeux une lueur qui déborde la douceur du temps. M'offre une fraîcheur assez chaude, je marque le pas, direction la cité. Le ciel est beau, à peine arrivé. Je remarque plein de choses, c'est plus comme avant. Les années ont passé, c'est différent. Toutes mes connaissances, mes amis sont tous partis. Il ne reste que le vide, tant de souvenirs enfouis. Un retour discret sur le lieu de mon enfance, le berceau de mon passé, le fond de mon essence, l'origine de mon inspiration, où j'ai tout appris, fait le fou dans les flaques d'eau, où j'ai joué sous la pluie, l'atmosphère n'est pas la même, je vis au rythme des pensées,
j'avance peu à peu,
les bâtiments sont tous délabrés, je m'isole en fermant les paupières pour visiter le temps, je me nourris de cet endroit que j'ai quitté il y a longtemps. Une nouvelle sensation me pince le cœur, une nouvelle impression sur les traces de mon bonheur. Je suis submergé par l'émotion qui me fige. Le futur n'est rien comparé aux instants que j'ai vécu. C'est clair que le passé, ça ne revient pas. On le revit en souriant, ce sont les choses qui ne se racontent pas. Je laisse donc l'écriture décrire ce que j'étais. Quelque temps me revoilà, 16 ans après. Je me souviens de tout comme si c'était hier. Les images sont claires, je me vois sautant les barrières. Turbulent et insouciant, le monde était à nous. On avait notre propre bande, un peu grillée, je l'avoue. De la chasse à la pêche, au vol chez le boutiquier. En passant par les tournois de billes sous le petit manguier. Il y avait le haut et le bas, Jacquet était dans son camp. Ça saignait toujours dans les matchs qu'on appelait le contre.
Les parents criaient par nos noms.
Zinga ou bambou, spam, c'était les frondes et les voitures en cœur de bambou. Je réalise qu'on a grandi, la richesse de mon enfance, loin des milieux nantis.
Peut-être pas une référence.
Ce retour m'a tellement fait du bien, malgré les absences, malgré les changements. Je ne prendrai plus de distance, 9PKBP5
pour un devoir de mémoire.
Nostalgique au premier plan pour raconter mon histoire. Une nouvelle sensation me pince le cœur, une nouvelle impression sur les traces de mon bonheur. Je suis submergé par l'émotion qui me fige. Le futur n'est rien comparé aux instants que j'ai vécu. C'est clair que le passé, ça ne revient pas. On le revit en souriant, ce sont les choses qui ne se racontent pas. Je laisse donc l'écriture décrire ce que j'étais. Quelque temps me revoilà, 16 ans après.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc qui commence. Et avec un invité pour changer un petit peu. Un invité donc c'est Faris Lounis qui vient nous causer d'un sujet que nous, en tout cas moi, on connaît pas du tout. C'est au sujet de la Syrie et en particulier de l'opposition de gauche anti-stalinienne, anti-communiste aussi au régime Assad et opposition qui évidemment est incarnée par de nombreuses personnes qui sont pas toujours vivante, parce que le régime Assad, c'est un régime qu'on a peut-être un peu sous-estimé dans sa puissance de nuisance et de répression en France, et en particulier dans sa capacité à massacrer ses opposants. Et là, il y a un de ses opposants au régime Assad, Yassine Al-Haj Saleh, qui a publié plusieurs livres, pas mal d'articles, et c'est un livre donc, qui a été publié là, chez l'Arachnéen, que Faris va nous présenter. Faris qui s'appelle « Sur la liberté, la maison ». Sur la liberté, 2 points, la maison, la prison, l'exil et le monde. où il expose une philosophie de l'émancipation. Donc Faris va nous raconter un petit peu déjà peut-être la Syrie en général, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop ce qui se passe en Syrie, moi y compris, ou ce qui s'est passé, parce que bon, maintenant ce qui se passe c'est encore autre chose. Et puis, qui est Saleh, quoi, l'auteur dont tu vas nous parler.
Bah, bonsoir et merci de ton invitation. Alors, je précise tout d'abord que je ne suis pas un spécialiste de la question syrienne, mais que je m'intéresse à ce sujet premièrement comme lecteur curieux de la chose syrienne, de la chose levantine, hein, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Palestine et du monde arabe d'une manière générale. Alors, la Syrie, c'est un sujet complexe, mais on peut le résumer dont le règne de ce que Yassine al-Hadchaleh appelle la dynastie des Assad, qui a régné d'une main de fer et d'une main de sang sur la Syrie pendant plus de 50 ans. C'est-à-dire à partir de l'accès au pouvoir du père Assad, Hafez al-Assad, en 1971, et la succession de son fils Bachar al-Assad à partir de l'année 2000. Donc, ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce que Yassine al-Hadchaleh appelle une gouvernance par la mort, hein. C'est vraiment un système qui gouverne par la mort, la torture systématique, le meurtre, les disparitions forcées, et aussi la privatisation de l'État. C'est-à-dire que ce qui caractérise la dynastie des Assad, c'est une privatisation de l'État et une publicisation de la question communautaire. C'est-à-dire que la confessionnalisation des affaires de l'État, leur ethnicisation, s'est substituée au service public, à la chose publique, et l'État est devenu privé, la propriété d'une, non pas d'une élite, mais d'une famille.
Oui, c'est comme ça qu'il définit la monarchie dans un de ses entretiens.
Voilà, exactement. Ouais. Le terme arabe, c'est el-jumlukiya, c'est-à-dire c'est une monarchie étatique. Voilà. Monarchie étatique ou pseudo-étatique.
C'est-à-dire que le pays devient la propriété privée d'une famille.
Tout à fait, c'est la propriété. Et cette théorisation s'est confirmée à partir de 2011, où Bachar al-Assad a préféré détruire et brûler le pays que de céder une partie du pouvoir qu'il a amassé durant toutes ces années, ces décennies de despotisme et de gouvernance par la mort. Voilà.
Alors, parmi les faits qui sont peut-être méconnus en France, j'en sais rien, mais je sais que j'avais lu que la police politique d'Hafez al-Assad avait été organisée et dirigée pendant longtemps par un ancien nazi exilé, Alois Brunner. Qui serait mort, mais on ne sait pas trop, à Damas, dans les années aux alentours de 2000-2010. Donc voilà, bon, ça c'est partie des trucs. Et la brutalité du régime Assad, c'est quelque chose qui me semble, alors peut-être que je fais partie des gens qui, peut-être que les auditeurs ou les auditrices sont mieux informés que moi ou là-dessus, ça fait partie quand même, c'est un régime vraiment extrêmement sanguinaire.
Tout à fait.
Qui a massacré, qui mieux à peu près, tout ce qui pouvait s'opposer à lui. C'est pas une dictature, tranquille ou un peu molle. C'est une dictature complètement sanguinaire.
Absolument. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que l'un des premiers grands massacres de la Syrie des Assad, c'est le massacre total de la ville de Hama en 1982. Il y a eu un soulèvement populaire dans cette ville qui est une grande ville syrienne, hein, avec une élite urbaine, un tissu commercial et économique à l'époque très intéressant, une élite intellectuelle, et la ville de Hama s'est soulevée contre le despotisme de Hafez al-Assad, et il a brûlé et détruit et massacré la ville tout entière. Et ce qui était intéressant avec le cas de cette ville, et Yassine al-Hadchaleh en parle notamment dans ce livre, c'est pratiquement aucun témoin du massacre n'a survécu. Il n'y a pas eu de récit, on n'a pas de photos, Et Hafez al-Assad a toujours interdit toute expression sur ce sujet. Donc on a vraiment un effacement de la ville, mais aussi un effacement des mémoires et l'interdiction au récit. Hein, le récit est interdit. Et l'accès à la parole est interdit aussi.
D'accord. Et donc alors, parle-nous un peu de cet écrivain maintenant peut-être. Lui, quel est son parcours? Comment est-ce qu'est-ce qui lui arrive et comment il en arrive là en quelque sorte?
Alors, avant d'aborder...
À moins que tu préfères... peut-être qu'on pourrait préciser deux, trois choses sur l'origine du... Ouais, vas-y.
Juste une précision sur ce qu'il entend par... comment il décrit l'atrocité de la gouvernance politique sous les Assad. Alors, il dit... il développe la notion de l'atroce. Hein, l'atroce en arabe, c'est al-fadhi'a. Mmh. Et il dit, l'atroce provient du franchissement des limites du corps par la torture, le viol, l'éparpillement sous les bombes. Il détruit en bouleversant les formes de la vie et de la mort, interdisant le deuil et la mémoire. Mmh. Voilà. C'est un peu de cette manière comment il définit la gouvernance des Assad à travers cette notion de l'atroce. Voilà.
D'accord. Et lui, donc, quel est son parcours?
Alors, c'est. Donc, il est né en 1960 dans la ville de Raqqa, qui est en province syrienne, disons. Et très tôt, il commence à militer au sein du parti communiste syrien, mais dans sa faction antistalinienne, qui était à l'époque présidée par un opposant aussi, un communiste antistalinien, qui s'appelle Riyad al-Turk. Et à partir du lycée, je crois, et après à la fac, hein, il était en fac de médecine et il commence à militer au sein de cette faction du Parti communiste, et il va connaître la prison à l'âge de 18 ans. Et il était à l'époque en fac de médecine. Hein, il faisait ses études de médecine, et il va être emprisonné en 1980 pour en raison de ses activités militantes, et il va passer 16 ans dans les geôles syriennes. Donc il va sortir en 1996, il reprend ses études de médecine et les termine en 2000, et à partir de cette année-là, il commence à écrire en tant qu'intellectuel engagé, mais surtout autodidacte. Voilà.
D'accord. Parce que en prison, qu'est-ce qu'il a fait essentiellement? Ça, c'est un truc intéressant, je crois.
Alors, ce qu'il dit, c'est que il est devenu écrivain en prison. C'est-à-dire qu'il s'est formé. Il a commencé à lire de façon systématique, hein, les auteurs communistes, la philosophie. Hein, il parle de Hegel, Marx. Il lit les intellectuels arabes et il parle dans ces termes. Il dit qu'il a acquis un capital symbolique en prison qui lui a permis de devenir écrivain.
D'accord. Alors ça signifie peut-être qu'il y a une énorme différence entre l'époque des prisons sous Hafez al-Assad et ce qui se passe sous Bachar à partir de 2011.
Non.
Et des printemps arabes ou pas? Parce que, tu vois, je sais pas, moi ça me fait penser peut-être, alors c'est peut-être une comparaison qui fonctionne pas, mais d'un vieux bouquin d'un gars qui s'appelait, je crois que c'est d'un Serbe peut-être ou d'un Yougoslave, je sais plus, qui s'appelait Anton Chiliga, qui a écrit 10 ans au pays du mensonge déconcertant, et il arrive en Union soviétique dans les années, fin des années 20. Il est emprisonné comme trotskiste par le régime stalinien. Et en fait, la prison sous Staline, à ce moment-là, va devenir une école de sciences politiques. Parce que t'as tous les trotskistes qui sont enfermés, qui débattent entre eux, qui s'échangent des livres de manière plus ou moins clandestine. Mais il y a la possibilité de le faire. C'est-à-dire qu'ils sont pas assassinés et torturés en permanence. Mais les choses changent aux alentours des années 30 quand Staline commence ses premières grandes purges après l'assassinat de Kirov. Mais là, comment est-ce qu'il a fait concrètement pour pouvoir lire en prison?
Alors, ce qu'il faut savoir, qu'il y a sous Hafez al-Assad et même sous Bachar al-Assad après, il y a différentes prisons en Syrie. Et les prisonniers ne sont pas traités de la même manière. Ah. C'est-à-dire que Yassine al-Hadchaleh a passé la quasi-totalité de son incarcération dans la prison de Damas, dans une prison dans la banlieue de Damas. Et au sein de cette prison, Et notamment pour les militants communistes, l'accès à la lecture, l'accès aux livres était possible. Les islamistes n'étaient pas traités de la même façon.
D'accord.
L'oppression et l'arbitraire exercé sur les islamistes étaient bien plus forts que celui qu'on exerce sur les communistes. Et après, il y a d'autres prisons, comme celle de Palmyre. Là, c'est vraiment le bagne. Hein. Là, c'est vraiment, il n'y a rien qui est possible. Mais Yassine Al-Hadchaleh a passé uniquement une année ou deux, je crois, dans la prison désertique de Palmyre. Et c'est là où il symbolise vraiment la Syrie. Il y a la Syrie pseudo-laïque, pseudo-moderne du tourisme et du parti basse qui aime exposer son adhésion partielle à la modernité, à la laïcité, au féminisme, etc. Et la Syrie souterraine qui vit dans les cellules de la mort de la prison de Palmyre. Voilà. Donc il y avait différentes sortes de prisons.
Bon, on va faire une première coupure après cette présentation un petit peu générale pour écouter un morceau choisi par José. Tout d'abord, il y avait une ouverture de l'Aram, 16 ans après. Et là, vous allez écouter un autre morceau qui s'intitule The Strong Heroes of Moscow. Et ce serait une chanson officielle des Hommes de Bachar, dont le titre original, tiens, tu peux le prononcer, Farid, s'il te plaît.
Alors, Bednan Abbi. C'est-à-dire, on veut remplir les prisons de plus en plus.
D'accord, et vider les chargeurs aussi, voilà. Semble-t-il. Donc, hop, on envoie la musique.
بدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية بدنا نعبي الزنزانات زنزانات زنزانات احنا جنودك يا بشار على صباطك نحن غبار لعيونك من هد الدار انت الديمقراطية مطرح ما بتمشي وبتدوس احنا بنرجع لك من بوس رح نفعس لك كلمة سوس مثل وحوش البرية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية نحن سودك لا تهتم بدنا نعبي السلاح دم الشغلة ابدا مو بالكم نحن عنا النوعية بلا حرية بلا بطيخ مؤامرة جاي من المريخ ما عنا هندوس وسيخ ولا عنا زرد شتية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية يا وجي بينا العالي بشتيك بروحي ومالي ومشان عيونك يا الغالي انا بذبح قلبي بشبرية قال الله حرية وبس رح نفرمهم مثل الخس كلهم كم مليون من دس ما بيشكلون اغلابية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية بدونك نحنا بنتبهدل تطلع اكتافي وتتندل اعلامك ضرب المندل كشف المجموعة السلفية ارهابية مالن حل مشانك درعا رح نحتل لا من كل ولا من ملة تصير ابادة جماعية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية اسمك بالعالي مرفوع وصوتك للسما مسموع لو شعبك مات من الجوع رح ننتخبك ابدية ما عنا رأي ورأيين عنا نورك يعمل عين انت كبيرنا يا زين انت ملك البشرية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نملي المعتقلات وبدنا نفضي روسيا والكرمال يلم الاسدية كرمال يلم الاسدية.
Alors, bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, c'est Jeudi Noir qui se poursuit donc pour sa deuxième partie, donc consacrée à un livre de Yassine Al-Hadchaleh qui s'appelle « Sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde ». aux éditions de l'Arachnéen, avec une préface de Catherine Cocchio. Et donc, notre invité, Fares Lounis, nous présentait un peu le bouquin. Et au début, en fait, avant de présenter le livre lui-même, on a présenté surtout une présentation un petit peu générale, d'une part de la Syrie sous les Assad, et d'autre part du parcours personnel de l'auteur, donc de Yacine. Et là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Enfin, si j'ose dire, parce que justement, le bouquin est écrit à partir de la Syrie des Assad. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin ? Qu'est-ce qu'il expose comme idée justement sur l'émancipation, en fait, à travers la prison ?
Oui. Alors, ce livre. C'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Il résume un peu le parcours de Yacine Al-Hadchaleh, c'est-à-dire le parcours d'un écrivain qui s'est formé en prison. Et aussi, il résume un peu le contenu théorique, philosophique, qu'on trouve un peu dans les livres qu'il a publiés précédemment. Donc, le point de départ, c'est le fait de devenir intellectuel en prison. Penser le régime arbitraire et dictatorial de Bachar el-Assad, non pas à partir d'une théorie abstraite de la liberté, mais à partir d'une expérience carcérale. Et il a inventé une dichotomie dans sa façon d'écrire et de théoriser son propos. Il dit... Moi, je m'inscris en opposition à la langue dépeuplée. Il utilise le syntagme. En arabe, c'est al-lugha al-mahjura, la langue dépeuplée qui a régné sous la dynastie des Assad. C'est-à-dire qu'il dit que le discours des pro-Assad et même des anti-Assad ne parle pas en réalité des gens qui souffrent et des gens qui subissent l'arbitraire. Et lui...
Donc il y a toute une réflexion sur la langue employée par le régime.
Absolument.
Pour euphémise les souffrances qu'ils instillent.
Effacer
les... D'accord. C'est super intéressant, parce que ça, c'est des choses dont on va sans doute reparler, parce que c'est ce qui est décrit dans un bouquin récent comme une langue totalitaire, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
Donc il y a tout un travail sur la langue, et c'est à partir de ce travail linguistique qu'il va penser la question de la liberté, de la démocratie, de la prison, etc. D'accord. Donc il oppose la langue dépeuplée de l'élite un peu bourgeoise de gauche, mais qui reste inoffensive.
Donc, dépeuplée presque au sens littéral, c'est la langue dont on a retiré le peuple
tout
syrien.
Tout à fait, dépeuplée, ce n'est pas au sens métaphorique, hein, c'est au sens littéral. Et lui, il parle d'une langue habitée. C'est-à-dire que, et c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir le lire en arabe. Et c'est vrai que ça change des discours creux, des théorisations creuses. Il y a et même c'est une langue du corps. Hein. Il parle à partir du corps. Et il y a une certaine incarnation, mais qui ne vire pas dans le pathos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de sensationnalisme. Et il a réussi, à partir de sa position militante, à faire... à théoriser la gouvernance par la mort sous les Assad et à produire une philosophie de l'émancipation accessible à tous, compréhensible par tous. Voilà. Donc,
il a des références philosophiques syriennes, levantines plus généralement, ou occidentales.
On trouve tout chez lui.
On trouve tout.
On trouve Bourdieu, on trouve Hannah Arendt, on trouve des penseurs arabes marxistes, ouvertement athées, etc., comme Sadeq Jalal al-Azm, par exemple. On trouve des références à la poésie arabe islamique. Ce qui est intéressant aussi, en dépit du fait qu'il soit athée, hein, revendiqué, mais il y a des références à des théologiens musulmans, par exemple. Il y a des notions qui relèvent, par exemple, de la persévérance qu'on trouve chez les soufis, chez certains théologiens, qu'il va réadapter, réutiliser dans une perspective profane. Hein. Donc, on a vraiment des... Et aussi, il se réfère surtout à la littérature concentrationnaire aussi. Donc il parle de David Rousset, de Jean Améry. Donc il est vraiment universaliste, rationaliste dans sa façon de faire, et internationaliste au sens le plus noble du terme.
D'accord. Voilà. Et alors, attends, est-ce qu'il fait référence, par exemple, à cet ouvrage qui s'intitule « La langue du Troisième Reich » et le TI ?
Je ne pense pas.
Pas du tout.
Je n'ai pas trouvé cette référence sous sa plume, mais en tout cas, c'est ce qu'il écrit à propos de la langue dépeuplée, au sens littéraire du terme, du despotisme syrien. Ça se recoupe entièrement avec les analyses et les thèses de LTI. Hein. Oui. Vraiment, il y a une véritable complémentarité. Et ce qui aussi défait ce mythe de tout ce qui s'oppose à l'impérialisme de Washington en apparence sont progressistes, sont de gauche, sont anti-impérialistes.
Ouais, ça, voilà. ça on verra plus tard. Voilà. Mais ça, c'est la troisième partie, je pense. Ouais.
Mais en tout cas, il y a un travail sur la langue. Et notamment, il invente une langue arabe vraiment propre à lui. Hein. C'est, et aussi... Et ça, c'est l'avantage de la langue arabe. On peut user des concepts sans rendre le texte jargonnant et incompréhensible.
D'accord. Voilà. Alors, il est plus philosophe ou plus poète ? Ou c'est un mélange ?
Oh, les deux.
Les deux ?
Les deux, je pense. Il y a une poésie, une poésie stoïque un peu dans ces... mais ce que je retiens de lui, c'est... La confrontation de l'atroce, la pensée de l'atroce, mais il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de sensationnalisme, il n'y a pas de défaitisme. Voilà.
D'accord. Et son concept d'émancipation, de liberté, tu peux le développer un peu ?
Oui, alors il
développe... Parce que quand j'ai essayé de lire un peu les entretiens, philosophiquement, moi j'arrivais pas forcément à le rattacher à des choses que moi je connais. Et donc... c'est peut-être parce que c'est peut-être en lien avec le contexte dans lequel il développe ça, mais quel contenu il essaie de mettre sous cette idée ?
Oui, alors il développe donc il pense la liberté à partir de son expérience carcérale et son premier acte de liberté. Il le décrit à travers un concept qu'il a forgé, qu'il appelle le istihbas. Alors, c'est quoi le istihbas ? Donc, il invente un, c'est un néologisme.
C'est un néologisme en arabe, d'accord.
C'est un néologisme. Hein, parce que la prison en arabe, c'est soit à sejn ou bien al-habs. Mmh. Voilà, on dit al-habs. Et donc, il a inventé ce néologisme de istihbas. Et donc, je le cite. Donc, le istihbas désigne la disposition psychologique du détenu qui a su, en quelque sorte, s'approprier sa condition en prison, en faire son chez-soi, sa maison, et en alléger ainsi le fardeau. Cette adaptation agit comme une brèche de liberté supplémentaire qui vient s'ajouter à celle que constitue l'intimité improvisée et les visites. Voilà. Donc, il dit que la liberté, c'est le fait d'empêcher la prison et l'arbitraire et le despotisme d'habiter l'être. Et d'habiter...
L'être, c'est-à-dire l'individu. C'est-à-dire,
l'être, l'individu, oui, tout à fait.
C'est-à-dire, en gros, ok, ils t'ont mis en prison, mais ils ne vont pas détruire ton esprit. C'est ça l'idée ?
Oui, parce que dans le système des Assad... On n'emprisonne pas seulement, mais on détruit aussi. On détruit l'être, c'est-à-dire l'individu, et on détruit les capacités d'expression et les capacités de réflexion.
D'accord.
Donc c'est ça la spécificité de la prison des Assad, c'est ça. C'est-à-dire...
Alors, José, qui depuis Saint-Étienne se moque de moi en disant « Ah, c'est bien Jeudi Noir, on vous parle d'un auteur syrien et vous ramenez du Orwell ». George Orwell, là je suis désolé, mais...
Il cite Orwell parfois.
Il cite Orwell, oui, parce que là c'est du... Comment dire ? Là c'est Winston Smith emprisonné et torturé au ministère de la Vérité. Tiens, non seulement on va pas te tuer, parce que te tuer, ce serait une défaite du régime. On va te détruire avant de te tuer.
Oui, alors...
Et donc résister à la destruction... justement psychologique, langagière, c'est un acte, presque tout ce qu'on peut faire si on est enfermé. Parce que de toute façon, ils ont ton corps, donc ils peuvent le détruire. Par contre, comment est-ce que tu sauves ton esprit ?
Oui, et Yassine Al-Hadchaleh s'évade durant ses ses 16 années d'incarcération à travers son rapport au langage. C'est-à-dire qu'il développe un langage habité pour pouvoir s'évader chaque jour de la prison totale du régime syrien. Okay. Et ensuite, après, donc là, il parle premièrement de cette liberté en contexte carcéral, et ensuite, la liberté hors contexte carcéral, c'est refuser la société que les Assad ont façonné. C'est-à-dire une société qui repose sur le confessionnalisme, sur une religiosité ostentatoire, inquisitive, refuser le rapport à l'État, c'est-à-dire le rapport un peu clientéliste à l'État aussi. Donc c'est à travers cette critique-là qu'il essaye aussi de définir la liberté hors contexte carcéral.
D'accord, avec l'idée, est-ce qu'il parle aussi du fait que peut-être il ne suffit pas de sortir de prison physiquement pour y échapper complètement ?
Tout à fait, tout à fait. Et lui-même, il dit que ses premières années hors de prison étaient terribles, et il a même, ça il le dit dans un livre qui s'intitule « Récits d'une Syrie oubliée ». Il est édité il a été édité en 2016 aux Prairies Ordinaires, et là on le trouve sur le site de l'Arachnéa. Et donc dans ce livre, il dit à un certain moment, il a même eu la nostalgie de la prison. Tellement toute son existence en réalité a été façonnée par la prison. Et donc, ses premières années de liberté étaient un peu déstabilisantes pour lui. Et donc, il dit qu'il a fait tout un travail de philosophique et même un travail d'ascèse sur soi pour s'adapter au monde des Assad des années 2000. Voilà. Et alors, on parle de Yassine Hadjalah, mais pour nos auditeurs, il y a un romancier syrien d'une grande importance qui est traduit en français et qui a passé 13 ans dans la prison de Palmyre, et il a écrit, dès sa sortie de prison, un roman témoignage qui s'intitule La Coquille. Donc il est édité chez Sindbad Actes Sud. Et là, on a vraiment une description minutieuse du système de torture et de mort sous les Assad. Et dans ce roman, donc le protagoniste a partagé sa cellule durant des années avec un autre détenu. C'était un médecin, je crois, ou voilà. Et il a fini par devenir fou quand il a quitté la prison, et il s'est suicidé après. Il n'a pas, voilà. Et donc ce personnage.
C'est le romancier qui s'est suicidé ?
Non, c'est pas le romancier, c'est l'un des personnages du roman.
D'accord. Okay.
C'est un ami du protagoniste. Okay. Donc le protagoniste a partagé sa cellule avec un.
D'accord.
C'était un médecin, je crois.
Ok. Ce médecin finira par se suicider sa sortie de prison.
Voilà, il s'est suicidé après sa sortie de prison parce qu'il n'a pas supporté le fait d'être en liberté avec des années de trauma, de torture gratuite, d'insultes, d'humiliation et aussi de spectacle d'exécution. C'est-à-dire que dans la prison de Palmyre, chaque jour, on exécutait à peu près entre 30 et 50 personnes, chaque jour. Et tous les prisonniers avaient l'obligation de regarder ce spectacle, entre guillemets, d'exécution. Voilà. Et la violence envers les islamistes était effroyable. Et ce qui explique, en partie, leur radicalisation. C'est-à-dire que leur radicalisation ne vient pas d'une essence de l'islam qui serait belliqueuse par essence et par destination, mais c'est le despotisme de ces États pseudo-laïques dirigés contre les islamistes. Alors bon, on peut être critique vis-à-vis de leur idéologie qui n'a rien d'émancipateur, mais les massacres qu'ils ont subis sous l'Assad est effroyable, et il explique leur nihilisme. Et d'ailleurs, Yassine Al-Hadjalah, il ne parle pas de terrorisme, mais il parle de nihilisme guerrier qui prend les habits d'un confessionnalisme exacerbé et d'une victimisation sans fin. Voilà. Donc il parle plutôt de nihilisme guerrier, et pour les Assad, il parle de nihilisme politique qui prend des couleurs confessionnalistes et ethnicistes surtout.
Donc oui, nihilisme dans les interviews, c'est ici, il faut le définir, parce que bon, le nihilisme dans la philosophie européenne du 19e et du 20e siècle, ça va être la relativisation de toutes les valeurs et le fait que finalement rien ne vaut absolument et donc rien ne vaut tout court. Et là, chez lui, le nihilisme, ça prend la forme donc d'un culte de la mort, c'est-à-dire que par exemple, les islamistes ne vont moins promettre finalement un monde meilleur que la libération par le martyr dans le sacrifice. Donc la mort, en fait.
C'est ça. Un culte de la mort promu par ceux qui n'ont connu que la mort.
C'est ça. Et, donc, en face, il y a un autre état nihiliste qui finalement ne promet et ne montre que la mort.
Tout à fait. Parce donc, que l'état des Assad traite la Syrie comme gouverne la Syrie comme une propriété familiale. Et donc, si on voit qu'on est menacé dans cette priorité, bah, on brûle le pays. Voilà.
Donc, on va faire une deuxième pause après cette présentation, donc assez rapide, mais très intéressante du bouquin sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde de Yacine Al-Hachaleh et aux éditions de l'Arachnéen. Et donc, après, on revient après une pause musicale. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit et on arrive donc à la troisième et dernière partie de l'émission. Vous venez d'entendre un petit morceau, un chant populaire des manifs anti-Assad. Tiens, Faris, tu nous le lis ?
Yalla irhal ya Bachar.
Ce qui veut dire ?
Casse-toi, Bachar.
Casse-toi, Bachar. Et donc, est-ce que tu sais quand est-ce que c'était chanté, ça ? C'était chanté pendant le printemps arabe en 2011
Je crois que c'était début 2011. Je ne
d'accord,
sais pas précisément.
Juste avant que...
Mais en tout cas, c'est à partir de 2011.
D'accord. Juste avant que Bachar c'est encore plus la vis et massacre tout un tas de gens. Et donc, on vous présentait un bouquin, le parcours d'un auteur. Donc, dans ce livre-là, sur la liberté et la maison... sur la liberté, deux points, la maison, la prison, l'exil et le monde, donc de Yacine Al-Hachaleh, et donc aux éditions L'Arachnéen. Et là, donc, dans une troisième partie, ce qu'on voulait aborder donc avec Faris, c'était le problème de l'incompréhension de toute une partie de la gauche occidentale au sujet des enjeux de ce qui s'est passé pendant la répression absolument terrifiante à laquelle s'est livré Bachar el-Assad à partir de 2011. Une répression qui est d'ordre génocidaire, je pense. Le terme n'est pas usurpé.
Le terme est utilisé.
D'accord. Justement, l'auteur qu'on présente, Saleh, il va critiquer tout un tas d'analystes politiques classiques qui, justement, se sont, en quelque sorte, ont repris des polarisations qui étaient relativement valables en Europe et les ont un peu plaquées sur la Syrie. Ce qui fait que il y a eu sans doute en partie un silence, une mécompréhension totale dans pas mal de pays, dont la France et peut-être les États-Unis, sur ce qui se passait, enfin au moins à gauche, sur ce qui se passait en Syrie. Est-ce que tu peux préciser, corriger ou en dire plus ?
Oui, tout à fait. C'est un peu les termes de la question. Alors, tout d'abord, je pars d'un universitaire, d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Luizard, je crois. Et qui a énormément écrit sur le caractère despotique et criminel de nombre d'États arabes considérés comme laïcs et progressistes. Donc la première difficulté de la gauche française et de la gauche occidentale d'une manière générale, c'est un manque d'intérêt à la littérature scientifique produite en Europe, en Occident, sur ces pays-là. Donc ça, c'est le premier point. Donc,
on ne lit même pas les gens qui écrivent chez nous.
Voilà, donc négligence de... Voilà. Négligence de la littérature produite par des orientalistes intéressants, comme Maxime Rodinson, par exemple, qui a énormément écrit sur le monde arabe, et j'ai l'impression que la gauche n'a pas suffisamment lu ces gens-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une méconnaissance quasi totale de ce que produisent, de ce que disent les Syriens sur eux-mêmes. Donc c'est-à-dire, on va analyser la question syrienne à partir de considérations géopolitiques proprement européennes. D'un côté, il y a les impérialistes, et de l'autre côté, il y a les anti-impérialistes. Or, la Syrie n'a jamais été un État anti-impérialiste. C'est-à-dire que la Syrie, vers la fin des années 40, a connu son indépendance suite à la fin du mandat français. Et par la suite, c'était des militaires, il y a eu une succession de militaires en réalité, plus ou moins durs, mais le paroxysme du despotisme va advenir avec la dynastie des Assad. Donc, en Europe et dans le domaine euro-états-unien, il y a une véritable méconnaissance du terrain. Et j'ai l'impression parfois, dans certaines analyses, que, et d'ailleurs Yassine Hatchaleh le dit, on traite de cette question comme si les Syriens n'existent pas. Les Syriens et les Syriennes n'ont jamais existé, n'ont jamais écrit, n'ont jamais parlé, n'ont jamais produit des films, etc. Et c'est ça ce qui fausse le rapport à la réalité. Alors, on va parler, par exemple, on va dire, Israël colonise le Golan syrien depuis 1967, donc la Syrie est un État anti-impérialiste parce qu'il a pour ennemi Israël. Or, ça c'est connu, hein, c'est-à-dire il suffit de lire la littérature scientifique ou même journalistique produite en français, on va s'apercevoir que le régime d'Assad a toujours massacré les Palestiniens. Il y a le camp de Yarmouk qui se trouve dans la banlieue de Damas. Sa destruction spectaculaire par Bachar el-Assad entre 2015 et 2016, ça ne diffère aucunement de ce que font les Israéliens dans les camps de Cisjordanie ou même à Gaza. C'est la violence est de même nature, elle est coloniale et elle a des intentions génocidaires. Et d'ailleurs, dans ses différents textes critiques, Yassine el-Hatchaleh compare Israël et la Syrie d'Assad. ils ont des ressemblances communes. Au niveau de leur gouvernance politique. Voilà. Donc, il y a énorme, par exemple, la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire que l'élite qui gouverne se légitime à travers une appartenance ethnique ou religieuse. Elle déshumanise les habitants du pays. On fait comme s'ils n'existent pas. Ou bien ils sont indignes, ils n'ont même pas le, c'est-à-dire ils ne méritent même pas le droit d'exister dignement et même dans la précarité. C'est-à-dire que même une existence précaire, on leur prive de ça. Donc il y a le rapport à ça, il y a le rapport aux expulsions. Donc il y a la Nakba en Palestine en 1948 et Bachar al-Assad à partir de 2011, il a expulsé 6 millions de Syriens. 6 millions de Syriens, essentiellement sunnites, mais même s'il y a des chrétiens, il y a même des alawites, hein, parce que même il y a des alawites qui sont opposés à Bachar.
Parce que les alawites, c'était la minorité dont était issue la famille Assad.
Absolument, qui est une branche minoritaire du chiisme, qui est devenue par la suite indépendante. Mmh. Les alawites se trouvent essentiellement sur la côte syrienne, sur la côte libanaise et en partie en Turquie aussi, dans le sud, dans ce qu'on appelle le Hatay en turc, qui était une province syrienne cédée à la Turquie par la France dans les années 30. Voilà. Et donc, les Alaouites sont une branche du chiisme qui est devenue plus ou moins indépendante. Voilà.
Et après, peut-être aussi un mot sur, par exemple, la position d'un auteur que nous, on a souvent apprécié et présenté ici, mais qui là-dessus est peut-être très très contestable, c'est Chomsky. Avec une espèce de polarisation campiste qui a fait que tout un tas de gens ont pu finalement plus ou moins sinon soutenir, du moins éviter de condamner le régime Assad.
Yassine Al-Hadchalah est très critique vis-à-vis de cette gauche que représente Chomsky. Et d'ailleurs, nombre d'intellectuels arabes aussi, c'est ça ce qui n'est pas très connu, c'est qu'en arabe, on a énormément d'articles qui traite de façon extrêmement critique les positions de Chomsky, qui sont en réalité, je dirais même une apologie de la barbarie assadienne. C'est-à-dire que on ne voit pas les Syriens, on ne veut pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une tentative de comprendre pourquoi il s'oppose à Bachar al-Assad. Ce qu'on voit, c'est l'anti-impérialisme, c'est la logique complotiste des ingérences que Bachar al-Assad reprend, que nombre de dictatures arabes aussi reprennent. Hein. C'est-à-dire que des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie ont fermé les yeux sur la destruction du peuple syrien à partir de 2011 aussi. Chomsky s'est complètement fourvoyé sur le sujet syrien. Voilà. Bon, il s'exprime sur la Palestine, c'est très bien, mais séparer la question syrienne, la question libanaise de la question palestinienne, c'est ne rien comprendre aux configurations politiques du Proche-Orient. C'est pas possible. La question syrienne-libanaise est inséparable de la question palestinienne, et d'ailleurs on le voit, hein, à partir de la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre, Israël s'est mis à coloniser toute une partie du sud syrien, hein, notamment le mont Hermon et des villages de la région de Kronitra, etc. Donc on le voit, ces questions sont inséparables. Et la gauche, à mon avis, affaiblit les luttes autour de la Palestine à travers cette focalisation un peu obsessionnelle sur la Palestine et qui ne voit pas aussi la parole des Palestiniens et les revendications des Palestiniens et des Palestiniennes dans leur complexité.
Et aussi toutes les oppositions qu'il peut y avoir entre eux.
Absolument.
Le fait que, comme tu disais, c'est des sujets politiques qui développent des idées, qui développent tout un tas de trucs, qui s'opposent.
Absolument.
Et qui ne sont pas simplement un objet de militantisme bien intentionné.
Non. Et on ne parle aussi, on ne parle jamais aussi des Palestiniens, pratiquement des 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël. Ceux qui n'ont pas été expulsés en 1948 et qui vivent aujourd'hui sur leur terre, dans un nouvel État. Ils sont des citoyens de seconde catégorie. Et eux aussi, ils sont divisés, mais il y a une gauche avec laquelle la France, par exemple, surtout la gauche française peut composer, peut parler, mais hélas, ce travail n'est pas fait. Voilà.
Alors vous pourrez aussi trouver, donc là on vous parlait de, donc sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde, donc aux éditions L'Arachnéen de Yassine Alhaj Saleh. Et vous pouvez aussi trouver des interviews de lui un peu partout. Et voilà.
Ses livres surtout.
Ses livres aussi, mais pour rentrer un peu plus de façon plus simple dans le truc. Et voilà, donc l'émission s'achève. Merci beaucoup Faris d'être venu pour nous présenter tout ça.
Merci pour l'invitation.
Parce que c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément ferré, mais qui... Voilà. Ça mérite d'être exposé. Voilà, et on va laisser l'antenne à l'émission suivante après un dernier morceau que vous pourrez retrouver sur Gurdulu avec toutes les références et tout et tout. Voilà. Donc Gurdulu, archive Jeudi Noir.
يرلهلك ذي يقز يقوم يضلق وعواز ولق نغراو يرلهلك ذي يقز يقوم يضلق وعواز ولق نغراو يرئيس من دق مهرز ميضغلي في دايت حسد يدي الصورة عضريت الدون رئيس ميرارام ويدي تراجون هاد سرشنا عضريت الدون رئيس ميرارام ويدي تراجون هاد سرشنا خاص عطل غردي تلتسونا تكفو الشدام لمرح رح صيغة دفغاق جون في البغي داعك وزوي ترارام لمرح صيغة دفغاق جون في البغي داعك وزوي ترارام كمي وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصود كمي وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصود يتسلقي مغل الهذور لما يسن وقرر داش يسوى دمور وقد غازي كام انزل سن المور اغي حزم الرام ارقص فام الطود وقد غازي كام انزل اسم الموت اغي حزم الرام ارقص فام الطود سوى الصيف الحذر يلها نقول ونطم الزود في اللي ماشي بوسام ورد اللي يروزي كان يبان غد سهود في اللي ما تجيب وسام وشقوار وزكا غيب انا غد سهود ورسف شلغي مذانا سسويت جحر شاول وغص عذران ورسف شلغي مذانا سسويت جحر شاول وغص عذران امرت ثرهوي ذا من مجدني مذنى ذا مجدن ريف ريوان
عسير عزيز سوى قصرت كفا اندي يقيم في سجارة السام عسير عزيز سوى قصرت كفا.